Mais la créature demeurait d'être en face à face avec le Créateur. Et pas, si j'ose dire, avec cet écran qu'est la Midatadine, c'est-à-dire les lois de la nature. Est-ce que c'est clair jusque-là? Nicole Macon, de toute façon, ou Nivdal, Mehem, Gamken, même si nous ne sommes capables, pendant tout ce temps-là, de ne le percevoir qu'en relation au monde, il est aussi séparé. Gamken, Ulfichach, et c'est pourquoi, Bemash et aussi Balaem, Manhigotam, Venoten Lahem, Havaya, en tant que lui est cause et raison de l'existence des existants, c'est lui qui en est providence, ça veut dire il les dirige. Il les fait se conduire selon les lois qu'il a placées en son monde, Venoten Lahem, Havaya, et leur donne de l'être. Et les fait être. La définition que Maïmonide donne du Créateur, c'est le Mehavé, celui qui fait être. Et donc, en tant qu'il est relié au monde, il est celui qui fait être le monde. Ou Bemashéouit Barach Nivdal, mais en tant qu'il est séparé, autre, Mehem, de les existants, ou Nisgav Levado. Il est ce que le verset a nommé exalté seul. Velo Nimtseou An Ibrahim. Et à ce niveau-là, les créatures n'existent pas. Ulfichach, Vechat Harev. Et c'est pourquoi, un jour du monde, le septième, il y a un aspect du monde. C'est moi qui ajoute un aspect du monde qui est détruit, disparaît. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit dans le verset d'Isaïe, chapitre 2, Venizgav Hashem Levado, Bayom Ahou. Et Dieu sera seul en ce jour-là. Jusque-là, il y a des écrans. Jusque-là, il y a des médiations. Jusque-là, il n'est pas exalté seul. Mais jusque-là, nous disons que lui est Dieu, que Hachem voit Elohim. Mais ce jour-là, Hachem l'évadou. Et relisez attentivement tout le chapitre d'Isaïe, et vous verrez comment le prophète parle. Il ne parle pas de ce que j'ai essayé d'expliquer pour utiliser l'expérience que nous avons de la perception du monde, nous ne sommes pas autant de la prophétie. Il parle de valeurs morales. Il parle de la disparition de tout ce qui fait écran entre Dieu et sa créature au niveau des valeurs morales. Bayomaru, Sheyehu Itbarar Bilbad, que lui soit seul à être. Ven Nimtza Ito Shum Metziut Od. Et il n'y a avec lui aucune autre existence. De plus, qui huit varach ilalan nitzaim, car lui est cause des existants, vehem alulim, et eux sont être conséquents, être de conséquence, être relatif, dépendant d'une cause. Im haya alul nitzatamid, et si cet être qui dépend d'une cause qui l'a fait être exister éternellement, constamment, Hayamishtave, là, il serait égal à lui. Haralul, chez Iyenim Satamid, Kemoa Ela. Si un effet était éternel, il serait équivalent à la cause. Or, l'effet, un être d'effet, un être effectué, si j'ose dire, ne peut pas être éternel. Parce que ça voudrait dire qu'il serait équivalent à la cause. Or, il a une cause. Donc, il a un commencement. Et vous voyez toute cette cohérence doit être envisagé à partir d'un postulat que nous avons souvent étudié dans les séminaires précédents, que c'est l'hébreu qui parle. L'hébreu, c'est-à-dire cette manière d'être homme qui se connaît en tant que créature. Je voudrais de nouveau ouvrir une parenthèse pour éclairer la cohérence logique du raisonnement. Pour ceux qui n'auraient pas suivi ces enseignements dans les séminaires précédents, c'est que, et là il faut se référer à l'expérience d'Abraham, c'est qu'il n'y a que deux manières pour une conscience humaine qui prend conscience d'elle-même de se connaître. Ou bien je me connais d'emblée comme créature, comme être haloul, comme être effectué, comme être qui n'existe que dans la mesure où il reçoit l'être qui le fait être. Ou bien je me connais comme l'être lui-même. Et c'est la différence entre la conscience de la prophétie hébraïque et la conscience de la philosophie grecque. l'être qui se connaît, enfin je veux dire l'homme qui se connaît comme l'être, a des problèmes insolubles à résoudre. Si c'est moi l'homme qui suis l'être, pourquoi suis-je fini lors même que j'ai en moi l'idée de l'infini? En particulier c'est Descartes qui a envisagé ce problème-là. Et si, et surtout par rapport à notre sujet, si c'est moi l'être, pourquoi suis-je dans le temps? À quoi sert le temps? Je veux dire que cette prise de conscience ne peut être que tragique. Et, c'est, si vous voulez, c'est une option dès le principe du commencement de cette réflexion. Ou bien je me connais comme Abraham, je n'existe qu'en tant que j'ai un créateur. Ou bien je me connais comme Socrate, c'est-à-dire, ou comme Descartes, si vous voulez. Je pense donc je suis. Et tous les mystères commencent. Je suis, c'est moi l'être. Et comment se fait-il que je vais mourir? Comment se fait-il que je sois né? Comment se fait-il que je me trompe? Comment se fait-il que je sois un être fini? C'est le mystère des questions de la philosophie, qui n'ont pas de réponse. À moins qu'on évacue le postulat qui est que je suis l'être. Oh, mais c'est le postulat de la philosophie. Il faudrait rejoindre les descendants d'Abraham. Ça, l'antisémitisme empêche. Mais en tout cas, pour revenir à Abraham, ce que je voudrais dire, c'est que c'est d'emblée une prise de conscience de soi qui n'est pas du tout à travers des catégories intellectuelles d'abord, mais qui est de l'ordre de la vertu. Je me connais comme créature. Et donc, je connais premièrement mon créateur que moi-même. Je n'ai pas à sortir de ma prise de conscience de moi comme créature pour connaître le créateur. Et ça ne passe pas du tout par des médiations intellectuelles. Il suffit tout simplement du minimum de, je ne sais pas comment dire, c'est de l'ordre de la vertu, très proche de la vertu de modestie d'ailleurs, du minimum de modestie, de normalité de modestie pour l'homme, de reconnaître sa véritable condition, c'est-à-dire de n'exister que dans la mesure où il reçoit l'être qui le fait exister. Et vous savez quelle est l'expérience religieuse d'Abraham? C'est d'inviter au repas et ensuite de demander à l'invité, ben nous allons remercier celui grâce à qui nous avons mangé. Alors l'invité a tendance à remercier Abraham, et c'est là qu'Abraham commence à expliquer que lui-même mange. D'ailleurs, il suffit de savoir qu'est-ce que ça veut dire. Le fait d'être obligé de manger pour vivre, pour savoir que l'on est une créature. Je crois que, effectivement, là il y a un thème important pour lui-même dans le Midrash, c'est que l'expérience de la nourriture est l'expérience religieuse par excellence. Et ce n'est que lorsque l'on perd les règles de la nourriture, eh bien qu'on bascule dans la philosophie. Enfin, je veux dire dans l'athéisme, ça revient. Celui qui ne sait pas manger ne sait pas qui est Dieu. Bon, j'ai dit des choses un peu trop récapitulées, mais vous voyez à quoi je fais allusion. Il y a là le véhicule de l'acte religieux par excellence. Et ce n'est pas pour rien que les religions païennes ont adoré leur nourriture. Parce que c'est l'acte par lequel se perpétue le fait d'avoir été créé. Et lorsqu'on a perdu le sens de cet acte fondamental, alors on perd aussi le sens de l'expérience d'Abraham, c'est-à-dire je me connais comme créature. Mais chaque fois que je mange, et quand je dis je mange, ça veut dire que je me nourris d'une nourriture qui fait que je continue à être. Et c'est à travers mon corps entier, c'est à travers mon être entier. Lorsque je perçois la lumière, je me nourris. Lorsque je respire l'air, je me nourris. Et il vaut mieux que l'air soit parfumé, etc. Et c'est cette expérience qu'Abraham enseigne. Et pas du tout un raisonnement philosophique. Pas du tout un raisonnement de démonstration qui aurait comme formule d'aboutissement « Donc Dieu existe ». Il faudrait dire « Je mange ». Donc je sais que j'ai un créateur. Bon, et quand je dis je mange, c'est le terme de achila en hébreu. Ça veut dire je n'existe que parce que je reçois l'être qui me fait être. Et il n'y a pas de troisième position possible. Ou bien je me connais comme créature, ou bien je me connais comme l'être. Et le conflit entre l'hébreu et tous les autres, c'est ce conflit-là. Parce que c'est la morale qui finalement est en jeu. C'est que pour être vraiment, il faut mériter d'être, et c'est cela qui est en question dans l'expérience religieuse juive. Alors que dans l'expérience religieuse non juive, il s'agit toujours d'expériences mystiques, magiques, qui précisément distraient de la conscience morale. Alors, revenons donc à notre lecture. Il n'est pas possible, dit le Maharal, que la créature équivale au créateur, en d'autres termes. Et par conséquent, il y a bien un niveau de leur relation où l'être de créature s'efface. Ven kan makom zeklal lebaer. Mais c'est, dit le Maharal, c'est pas l'endroit d'expliquer tout cela. Et en d'autres termes, il dirait, c'est un tout autre séminaire. Lecha, c'est pourquoi. Bema shewit barar mistaref el aninzaim. En ce fait que Dieu est relié, se relie aux existants. Nimtzaou aninzaim behavayatan. C'est très joli en hébreu. C'est dans le fait que Dieu est relié aux créatures que les créatures existent en leur être. Ça veut dire, si Dieu cessait cette relation à nous, nous cesserions d'être. D'une certaine manière, si cette nourriture dont j'ai parlé tout à l'heure nous était refusée, nous tomberions en syncope d'être. Nous nous évanouirions, littéralement. Hein. Celui qui cesse de se nourrir n'existe plus. Et vous voyez pourquoi Abraham va diagnostiquer d'emblée que la preuve, j'allais dire de l'existence de Dieu, mais il n'est pas philosophe. La preuve que je suis créature d'un créateur, c'est le fait que je mange. Et c'est pourquoi, dans la liturgie juive, le Birkat Hamazon est plus important que tout autre rite. Vous comprenez ce que je veux dire en disant le Birkat Hamazon, hein? C'est le plus important que tout autre rite. Et le Maharal a consacré plusieurs chapitres dans Netivot Olam à ce fait que c'est dans l'expérience de la nourriture que je sais vraiment que Dieu existe et qu'il est mon créateur. Et non pas du tout à travers quelques raisonnements que ce soit. Ensuite, les raisonnements viennent aider l'exposé de cette découverte, l'exposé de cette expérience. Mais il y a d'abord cette expérience. Et je tiens à répéter chaque fois qu'elle est de l'ordre de la vertu et non pas de l'intellect, et non pas de l'intellectualité, plus exactement. Et c'est une vertu tellement élémentaire. Vous voyez, le contraire de cette vertu, c'est cette espèce de vertige d'orgueil du philosophe. Du philosophe le plus honnête, d'ailleurs. Mais qui ne peut pas ne pas être pris par ce vertige. Comment ? J'existe, je suis, alors c'est moi qui suis. Et qui fait que la philosophie honnête, si j'ose dire, est toujours tragique. Parce qu'en fin de compte, le philosophe sait bien qu'il est un homme. Voilà donc le point de l'explication du Maharal. Si Dieu n'était pas relié à nous, et par quoi est-il relié? Par ce que les kabbalistes appellent le shefa, que j'ai traduit dans cette analyse par une nourriture. Mais cette nourriture est destinée à se transfigurer. Un jour, nous aurons, si j'en dis, c'est une image poétique, un jour nous aurons le privilège des feuilles sur les arbres, nous arriverons à nous nourrir directement de ce shefa. Vous savez que les feuilles se nourrissent de lumière. Et un shefa. Alors, ce sont des termes très difficiles à traduire en français. Un shefa, si je vais employer des équivalences, un afflux, un influx, une irradiation qui nous vient de la source de l'être. Et si ce shefa est interrompu, je disparais. Et je crois que l'expérience la plus immédiate, c'est effectivement l'expérience de nourriture. Et tout ce qui nourrit la conscience et la fait être. C'est vraiment dire, à tous les niveaux, un sourire d'amitié, ça peut être une nourriture. Et c'est d'ailleurs une des nourritures les plus... Ça, c'est le dessert. Et alors, dans le Sefer Yetzira, il y a une indication que je voulais vous citer, c'est très joli. Quelque chose peut interrompre ce shefa. Il suffit de mettre les lettres dans un autre sens. Et quel est le mot qui apparaît là? Pécha. Il faut faire attention. C'est un peu l'état de chaos. Quand les lettres ne sont pas dans l'ordre où il faut. C'est le cas. Bien. Alors, là nous allons aborder maintenant l'enseignement du Maharal. À Alors, je rappelle le principe auquel nous sommes arrivés. C'est en ce que lui est relié à nous que nous existons. Par quoi nous sommes reliés? C'est le Shefa. Une irradiation de lumière qui devient nourriture d'être. Fait que le moment de la nourriture d'être, c'est la continuation du fait d'avoir été créé. Mais en ce que, en tant que, il est séparé des nimitzaïm, des existants, yeshkan shvita mehem. Très fort ça, ce mot-là, le Shabbat de Dieu. Il y a là shvita mehem. On a un chômage, ken. Et vous vous rappelez que ce shefar descendait double le sixième jour pour qu'on ait de quoi manger le septième. Vous rappelez ça? C'est la fin Mishneh. Parce qu'il y a Shvita, comme si c'était Shoma, grève. Hein? D'accord. Lechach, et c'est pourquoi, Shet alfe shne shane ave alma, 6000 ans dure la durée du monde, Bema shu mistaref la nizayim, en ce qu'il est relié aux existants, et le septième millénaire, le monde détruit. Mais quoi détruit? Où est l'Efashvi? C'est le septième millénaire. Et c'est dans le sens que il est séparé des créatures, disons des existants. Ces créatures ont enfin mérité d'exister par elles-mêmes. Alors elles n'ont plus besoin de ce lien particulier des six jours, des 6000 ans. Dans l'état de Shabbat, j'ai déjà mérité d'être, j'existe par moi-même. Et ce monde à travers lequel Dieu me fait exister devient superflu. Les échafaudages sont en lui. C'est-à-dire le monde des êtres humains, pas moi. C'est clair? Pas moi, la créature. L'être pour qui Dieu a voulu créer un monde. Là, j'ouvrirai une petite parenthèse, nous avons étudié peut-être il y a quelques années. Mais très, très brièvement, même à la lecture du récit de la création, on pourrait poser la question de la manière suivante. Qu'est-ce que Dieu a voulu créer dans la cohérence du récit de la création? Un monde. Et puis voilà que dans le monde, il y a un homme, mais que l'intention de Dieu, c'était de créer un monde. Et à partir d'une telle hypothèse de départ, il devient on ne peut pas expliquer du tout l'existence de l'homme. Si c'est le monde que Dieu a voulu créer, par quel hasard l'homme sort du monde? Je m'explique. Le monde, c'est l'habitation de l'homme. Mais si Dieu a voulu créer une maison, par quel hasard il y a quelqu'un dedans, l'homme? Alors, interviennent les évolutionnistes. Et ils nous diront, c'est très simple, il y a une moisissure d'un des murs qui est tombé par terre, et avec le temps, ça a fait un homme. Il n'y a pas d'autre explication. Ça veut dire que dans cette mentalité même de ceux qui croient dans le récit de la Bible, que ce que Dieu a voulu créer, c'est le monde en tant que baït, en tant que maison. Et puis voilà, mais cette maison est habitée, il y a un homme. Alors d'où sort l'homme? Eh bien, il sort des murs. Et est-ce que... Bon, je dis ça de façon récapitulée. Et finalement, toutes les théories évolutionnistes reviennent là à partir d'une bactérie. Mais d'où vient cette bactérie? Ah, c'est très simple. Elle vient du salpêtre qu'il y avait sur les murs de la maison parce que, avec le temps, il faisait humide. Et alors, si j'ose dire, sainte bactérie, priez pour nous. Parce que y a, je crois, ici une difficulté pour les croyants qui étudient les sciences d'arriver à concilier le récit de la création et l'évolutionnisme. Et je reste toujours stupéfait de cette attitude avec laquelle, je parle des croyants, qui croient à l'évolutionnisme. Vous savez, les juifs, il faut s'attendre à tout. Ils sont tellement croyants qu'ils croient n'importe quoi. Que cependant, ils sont croyants. Dieu a créé le monde. Mais voilà, et alors qu'est-ce que c'est l'homme? Eh bien, il faut expliquer comment il sort des murs de la maison, à partir d'une bactérie. Et imaginez que nous serions ici, dans une assemblée de bactéries parlant de l'homme. C'est une schizophrénie mentale admirable. Comment? C'est pas du tout ça l'intention du récit de la création. Ce que Dieu a voulu créer, c'est l'homme, pas le monde. Et pour que l'homme ait une place, une maison, alors il a fait un monde. Mais le monde est provisoire, pas l'homme. Voilà, c'est là que nous arrivons avec le mal. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, c'est cet aspect du monde qui est le kéli du monde qui est provisoire, mais pas l'homme. Peut-être qu'on va faire une petite parenthèse. Oui, vous avez une question déjà. Une petite parenthèse, mais de 10 minutes seulement, parce que je voudrais terminer le chapitre ce matin. Rapidement, hein. Écoutez, posez la question, ne l'exposez pas. Oui. Exactement. Oui, oui. Le monde qu'étudient les savants à tous les niveaux d'être, depuis le niveau physico-chimique, élémentaire, jusqu'au niveau le plus élaboré, le fait psychique lui-même, tout ça c'est le monde. Mais moi, qui habite ce monde, ça c'est l'homme. Et alors, dans ce que je viens de rappeler, l'intention du Créateur, selon le récit de la Bible, c'est pas de créer un monde, c'est de créer un homme. Mais pour que l'homme soit situé quelque part dans ces 6 ans d'apprentissage d'être, il faut bien qu'il y ait un monde. Alors lorsqu'on dit le monde au 7e jour d'existence, c'est le monde, pas l'homme. Bien. Oui, c'est-à-dire ça se divise à l'infini. C'est-à-dire ce rythme, cette structure du temps en 3 moments s'intériorise à l'infini. Parce que le milieu lui-même a son temps de commencement de milieu, son milieu de milieu et sa fin de milieu. C'est un peu cela que tu demandais? Non, ça veut dire qu'il faudra que nous arrivions à distinguer 2 notions de la fin. Et la fin de ce qu'il y a avant, qui est en soi un commencement de ce qu'il y a après. Et puis la fin tout court. C'est 2 notions différentes. C'est la différence en hébreu entre sof et ketz. Il y a fin de cette dimension provisoire d'être, fin FIN, de cette dimension provisoire d'être qui nous est donnée à l'indice 6 et qui dans l'histoire c'est 6000 ans, depuis le premier homme jusqu'au fils de l'homme, c'est-à-dire le Mashiach. Ce qu'on apprend ici, notre sujet, c'est que ce fils de l'homme aurait pu apparaître dès le début de cette 3e partie de 2000 ans. Okay? Mais que, avenotenu, cher Abou, à cause de nos fautes qui se sont multipliées, beaucoup de temps de cela a passé. Une minute, je voudrais un peu anticiper pour que nous gagnions du temps. C'est que, en fin de compte, il va nous dire qu'après tout, il nous suffit que le Mashiach apparaisse à la fin des 2000 ans de Yamot HaMashiach. Ça, c'est 2000 ans où il pourrait venir si on mérite. Okay? Mais il suffit qu'il arrive à la fin. Parce que son temps normal d'arriver, c'est à la fin. Est-ce que c'est clair?
Yomot HaMashiach, c'est la partie proche de la destruction du premier temps.
Premier. Alors, même si 2000 ans, c'est à partir de la destruction du deuxième. Alors ça, comme nous disons en hébreu, en français on dit qu'il vivra, verra. En hébreu on dit qu'il verra, vivra. Alors, le grand problème, c'est ça. Ils ont des yeux et ils ne voient pas. Vous connaissez les psaumes? Attendez, une minute, je vais terminer parce que c'est une question importante. Vous voyez qu'on n'évacuera jamais dans l'étude de la tradition l'option de foi. Et c'est clair ce que je vous dis. Jusque-là, nous sommes libres. Jusqu'à ce moment du problème, nous sommes libres. Et nous sommes même libres qu'au moment qu'ils viennent de voir ou de ne pas voir. Mais je crois que là, il y a une capacité d'exigence de foi qui, en elle-même, est une notion que l'intelligence pure et simple ne peut pas élucider. C'est une manière d'être, avoir la foi. Très bien, ça vous explique beaucoup de choses du chassidisme. Je veux juste aller. Mais là, il y a tous les pièges possibles et imaginables. Après, juste après, dans la Gemara, on demande comment il s'appelle. Et dans chaque yeshiva, on donne le nom du maître de la yeshiva. Ça vous suffit, en attendant. Mais si ça vous intéresse, je vous donnerai exemple-moi tout à l'heure, je le cherche. Okay. Bon, mais ça, c'est du chassidisme, hein. C'est pas le messianisme lui-même. Okay. Oui, qu'est-ce que vous dites?
Oui. Une question qui m'est intéressée, c'est le cas de la romance. Je veux dire, dans le cas que vous avez montré, on avait l'impression qu'il y a une différence qui est venue
hors.
Alors c'est ça qui est en train de
dire. Voilà, exactement. Très bien. Quand il dit ce jour-là, okay, à ce niveau-là, c'est ce jour-là, lorsque le Kelly est haut. Très très bien. Et l'aspect Kelly, l'aspect donc déterministe disparaît parce qu'il est transfiguré, et alors on est face à face. Exactement. Il est éliminé. Oui. Et comme vous avez dit tout à l'heure, il y a des Yechides Goula, comment dire, des individus d'élite, je ne sais pas, mais tous les juifs, pour tous, c'est écrit israélite. Il y a rien. Qui ont déjà une préfiguration de cela. Alors l'idolâtrie, c'est de transformer ça en événement historique, tout simplement. Le faux messianisme, c'est ça. C'est de considérer un homme. Bon, vous avez compris, on va voir ça dans la suite. Est-ce que... Oui, le monde tout entier est l'échafaudage. Bien sûr. Enfin, le côté du corps qui est tourné vers le monde. Qu'est-ce?
Dans les trois segments de, disons, du monde.
Du temps du monde.
Du temps du monde, il y a une corrélation avec la Kedusha, avec les trois dimensions de la Kedusha. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut, à partir du moment où nous, on vit en deux dimensions seulement, avoir accès à ce monde?
C'est très bien. Vous me l'avez appris, je ne le savais pas, mais c'est exact. Très bien. La Kedusha. C'est-à-dire, on pourrait faire correspondre ces deux choses. Kadosh dans le premier, Kadosh dans le deuxième et Kadosh dans le premier. Très bien.
Est-ce que cette division de deux, deux, deux.
C'était à l'école de Yaron Lévi.
Moi, est-ce que cette division de deux, deux, deux a un rapport avec les trois tfilotes et les trois patriarches?
Ah, ça devient trop riche. Ça peut. Très très bien. Bon. Vous voyez toutes les correspondances? Très 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 bien. Bon. S'il n'y a pas d'autres questions sur ce qu'on a déjà vu, on avance un peu. Quelle heure est-il déjà?
Midi moins 5.
Bon.
Non, pas le temps.
Là, je voudrais arriver à la formule même où le Maharal va dire en une phrase tout ce que nous avons essayé de comprendre. Rappelez-moi où je suis arrivé. Et par le fait qu'il est impossible de dire sinon qu'il y aura un niveau ce jour-là où il y aura interruption de ce dont nous avons parlé, de la médiation par le monde, à travers le monde, où et où il sera exalté seul, séparé des existants, alors Raoui Elze Hachvii, ce temps-là ne peut être que le septième, que le moment sept, qui Bechol Makom ou Meyuchad Kedusha, parce qu'en toute chose, c'est l'indice sept qui est consacré à la sainteté. Ça se revient un peu à ce que vous avez dit. Et sainteté, ça veut dire séparation, c'est-à-dire face à face. Je reprends ce moment de l'analyse. Pendant les six jours, nous constituons notre être, et pendant les six jours, nous préparons la nourriture, et puis le septième, nous existons par nous-mêmes. Comme cela est étudié dans un tout autre livre du Maharal qui s'appelle Gvurot Hashem. Ulchach Hashem Yitvarach Sheu Kadosh Bechol HaKadoshot. Et c'est pourquoi Dieu, qui est saint de toutes les saintetés, les Kharnivdal Minaninsaïl, en cela il est séparé de tous les existants, de Udbarach Mitkadesh Minaolam, et il se sanctifie du monde, Be'elef Hashvi, le septième millénaire, Hamizgab Be'elef Hashvi, Venizgab Be'elef Hashvi, et il est exalté seul, le septième millénaire. Vechol Dabar Shiwa Homri, et toute chose qui est de l'ordre de la matière, Az O noté à la Homerie, ou tend vers la matière, ou haré, cela sera détruit. Ce qui disparaîtra, c'est l'aspect matériel du monde. Voilà, nous sommes donc arrivés au terme de cette première analyse. C'est clair ? Alors rassurez-vous, le septième millénaire, ce qui est détruit, ce n'est que le monde. Et quoi dans le monde ? L'aspect matériel du monde. Ce qui fait qu'il y a opacité entre Dieu et nous, et entre les créatures entre elles, et entre soi et soi-même, dans les trois dimensions. Qui ena olam agashmi yesh lo koach be'elef ha'shvi. Le monde matériel n'a plus de koach, n'a plus d'effectivité, n'a plus d'emprise dans le septième millénaire. Mpene ki elef ha'shvi, car le septième millénaire, meyuchad le nivdal min agashmi, est spécifique de ce qui est séparé, distingué de ce qui est matériel. Libéré de toutes les contraintes de pesanteur, libéré de toutes les déterminations. C'est le millénaire de la sortie d'Égypte absolue. C'est le millénaire de la libération de toute aliénation qui était nécessaire dans la vie embryonnaire que nous avons pendant les 6000 ans d'histoire. Et alors, vous devinez que là, il y a un schéma général et qu'à l'échelle de la destinée individuelle, pour le rythme de cette histoire pour chacun, eh bien, c'est le secret de la vie privée de chacun avec son créateur. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et l'erreur d'un chassidisme devenu idolâtre serait de projeter dans le monde objectif une expérience de la vie intérieure. Est-ce que c'est clair ? Et parce que on a eu un tzaddik de dire qu'il est le Messie. Tzaddik, il est. Bon. Ulfichach. Et c'est pourquoi Amrou Sham, on a dit dans ce même texte de la Gemara, Sanhedrin, page, rappelez-moi, 97. Hein, c'est un peu dans la suite, c'est déjà dans B, 97B, chez Ashvi'it, Meshamet, Echad, les Shiva, les Shiva, Shevarshana. Il y a Shemitah, une fois tous les 7 ans, 6 ans et la 7e année. De même, le monde entre en état de Shemitah une fois pour sept millénaires, c'est-à-dire dans le septième millénaire. Ki ha'olam nishmat mimenu vehu nisgav levado. Car le monde est autonomisé de lui et lui seul est exalté. Corollairement à cette idée qui est apparue déjà tout à l'heure. C'est-à-dire, à l'indice 7, au septième millénaire, comme pour le septième jour pour le Shabbat, j'existe déjà avec mon mérite d'être. Je suis moi-même séparé du monde. Alors Dieu est séparé du monde pour moi et nous sommes face à face. Et cela, si vous voulez, cela développe cette idée très familière que l'expérience du jour du Shabbat chaque semaine, c'est une préfiguration de cet état du septième millénaire. Alors il suffit de faire cette correspondance au niveau de l'expérience pour que cela apparaisse de façon très, très claire. Mais je reviens à ce que nous avons dit tout à l'heure à travers la question de madame. C'est très clair comme cohérence dans l'exposé. Mais pour s'y relier, il faut une option de foi, c'est-à-dire une capacité d'espérance. Et c'est ça le mystère de l'être hébreu. Okay? Dans cette dialectique dont j'ai parlé souvent, notre relation au temps est une relation simultanément de patience et d'impatience. Et alors les goyim ont perdu patience et ils ont dit, le temps des 6 jours est éternel, il n'y a pas de 7e jour. Alors que Israël n'a pas perdu patience. Je pense que peut-être son intensité d'impatience lui a permis de ne pas perdre patience. Et que nous arrivons au bout des 6 millénaires, c'était considérable comme histoire, nous arrivons au bout des 6 millénaires avec intact cette capacité d'exigence du 7e jour. Mais c'est une option de foi, mais qui n'est pas du tout au niveau des idées, qui est une manière d'être. Et que quelles que soient les apparences du monde extérieur, le 7e jour se prépare. L'image qui a été donnée souvent, et que je voudrais vous rappeler, c'est essayer de comprendre cette comparaison. Vous entrez dans une cuisine juive le vendredi après-midi. Vous voyez, à la fin du 6e millénaire. Alors c'est un balagan total. Et puis, mais tout ça, oui, ça c'est les apparences du monde extérieur. Hein? Et alors, vous avez un Baal HaBayit qui va dire vite, 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 Shabbat va commencer, vite, 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 et subitement Shabbat arrive, c'est Malchut Mashiach. Hein? Les deux bougies sont à leur place, les deux pains sont à leur place, on est déjà habillé en vêtements de roi, et puis le Shabbat commence. Mais juste avant, c'était quoi? C'était l'état du monde aujourd'hui. Ça veut dire la cuisine juive un vendredi après-midi. Vous avez remarqué cela? Bon, c'est cette idée-là. Alors, pardon? À quelle heure c'est Shabbat? Hein, c'est ça le... Moi? Quel que soit le temps de l'année. Ouais. Oui.
Cette semaine, c'est à 6 heures.
Umehachar chez Yeme Olam, et par le fait que les jours du monde, chez Talfe Echne, chez et par le fait que les jours du monde, c'est 6000 ans, alors il les a divisés, Halakotam, Mishosha Halakim, notre texte de la Gemara les a divisés en 3 parties. Et ça fait 2000 ans chaque fois. Chez Azman Nechelak, Berishon Aleem, Kemushi Idbaer Lemala, car Là, je vous avoue que je ne sais pas lire. Hein. Il doit avoir manqué une ligne dans le livre. Et il faudrait qu'on retrouve des anciennes éditions ou un manuscrit. Mais on va essayer d'interpréter quand même. Chez Azman, Nechela, car le temps se divise. Barishon, Aleem. Et on ne peut pas traduire. Hein? Il manque les deux autres. Okay? Oui? Il manque une phrase. Kemo Sheidvaer. Comme cela a été expliqué les malas plus haut, Ha'atrala, Ha'emtsa, Ve'asof. Le début, le milieu et la fin. Bien. Alors écoutez, il nous reste quand même un peu de temps jusqu'à midi et demi. Comment voulez-vous qu'on procède? Que je vous lise le dernier paragraphe ou qu'on étudie? Parce que je voudrais quand même, malgré tout, terminer ce chapitre aujourd'hui, de façon d'avoir plus de temps dans les. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche, si Dieu veut, pour le reste des textes qui sont plus précis. Hein? Si, dimanche, on va trouver.
Le vendredi aussi?
Aussi, oui.
Mais elle va être cuisine l'après-midi.
Comment? Qui a dit? Oui, vous savez, ici, il y a des problèmes administratifs. Bien. Alors, qu'est-ce que vous voulez que...
Continue. Le
Shabbat, il y a... Alors, je continue. Le Kahamar... Shnei Alafim Tohu Neged Ha'Atchala. Et dans notre citation, il nous a été dit 2000 ans de chaos par rapport au commencement du temps du monde. Ha'Atchala. Chekhen a Atrala, parce que le début, Adaïn Enbo Davar, le début d'une chose, c'est pas encore la chose elle-même. Le début, c'est un pré, un temps qui annonce, mais ce n'est pas encore vraiment ce qui apparaîtra. Prenons, si vous voulez, comme exemple, les âges de l'homme. Eh bien, l'enfance, c'est pas encore l'homme. C'est l'enfance. Vezé misgulata atrala shenbo dabar mamash. Et c'est la définition même du début que ce dont on parle n'est pas encore là vraiment. Que la chose n'est pas dabar mamash. La chose elle-même, vraiment. Ve'amar shne alafim Torah. Et il a dit aussi dans ses textes 2000 ans de Torah. Kiazman haemsa'i meyuchad la Torah. Car c'est le temps du milieu qui est spécifique, consacré à la Torah. Vedabarze be'arnu besof chibur gvurot Hashem. Ceci a été expliqué à la fin du livre qui s'appelle Gvurot Hashem, Kubukama mekomot, et dans beaucoup d'autres endroits. Mipene she'aemsa'i eno geshem. Parce que le milieu n'est pas matériel. Je pense que tout ça va falloir beaucoup de temps. Alors, par conséquent, parce qu'il y a déjà une nouvelle notion qui apparaît là, et on est déjà à la fin du cours, et je ne voudrais pas... C'est dommage. Alors, je vous propose que le temps qui nous reste jusqu'à midi et demi, nous réfléchissons un peu sur ce qu'on a appris et que malgré tout, demain, je commence ici. Parce qu'il veut nous expliquer pourquoi la Torah ne pouvait être révélée qu'au temps qui va de Abraham jusqu'à Ezra à son père. Et nous verrons les références à ce moment-là. Que ce temps du milieu, le temps de la révélation, le monde a déjà vécu quelque chose qui est de l'ordre du septième millénaire. Que ce n'était pas Gashmi. Le milieu n'est pas Gashmi. On va voir ça après. Mais alors revenons, si vous voulez, à tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. J'espère que le vocabulaire a été suffisamment recodé à l'hébreu, mais enfin, si ce n'est pas suffisamment précis, il vaut mieux réfléchir.
Ce qu'on vient de voir, c'est tiré de Netzach Israël. Ce qu'on vient de voir, le texte, c'est tiré de Netzach Israël.
C'est un texte de Netzach Israël. Vous voyez, l'intention de cet exposé était aussi d'expliquer pourquoi et tant de temps a tardé pendant ces 2000 ans des temps messianiques. Et malgré ça, cette patience impatiente dont j'ai parlé tout à l'heure, la foi des Juifs, est resté ancré, il viendra quand même. Parce que son temps naturel, c'est la fin du temps. Et alors, la fin du temps, c'est ces 2000 ans. Mais finalement, par excellence, c'est la fin de la fin. Et ça, c'est un paragraphe important, on l'étudiera demain matin. Et que, en fin de compte, il est arrivé que les choses que nous attendions sont arrivées à la fin de cette période. Le Maharal va expliquer parce qu'on n'a pas mérité que ça arrive dès le début. Il va dire, vous verrez à la fin de ce paragraphe, il faut un srout gadol, un grand mérite, pour que ça commence dès le commencement de ce temps, troisième. Et comme il n'y a pas eu de grand mérite, alors ça ne vient qu'à la fin. Mais ne t'étonne pas qu'il tarde, parce que c'est à la fin qu'il vient. Vous comprenez, un peu comme a dit Maïmonide. Et même s'il tarde, je l'attends. Parce que précisément, sa manière d'être, c'est pas d'être en retard, c'est de tarder. C'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire de venir, enfin, de venir à la fin. Et je crois que le temps de l'histoire nous a donné raison. Pendant 2000 ans, eh bien, c'était invraisemblable qu'il se passe quelque chose. Et finalement, ça s'est passé. Ça s'est passé à travers des catastrophes, parce qu'on n'a pas mérité mieux. Mais ça s'est passé. Bien.
Je reviens à l'idée tout à l'heure, parce que il y a quelque chose qui me préoccupe. À partir du moment où on ne vit qu'en deux dimensions, et que la troisième...
Dans lesquelles
sur Terre, et par la religion, on est fait au-dessus du ciel. Il nous manque le temps, qui serait donc la troisième dimension, dans la Kedusha. À partir du moment où on dit que dans les deux premières dimensions, en quelle mesure avons-nous accès à la troisième période? Donc,
alors là,
il faudrait que tout le monde soit vraiment sain, soit dans la Kedusha maximum, pour avoir accès à cette troisième dimension.
Attendez, si j'ai bien compris votre question, je voulais lui répondre.
Ma réponse serait que la médiation, c'est la mémoire.
La mémoire collective.
Donc, intégration.
Oui, à condition d'y ajouter l'idée de la collectivité. Et, voilà, si j'ai bien compris votre question, voilà, c'est clair. Oui. Il y a une histoire collective. Cette histoire collective a ce rythme-là. L'individu, où est-il de sa propre histoire par rapport au rythme de l'histoire collective?
Donc c'est une prise en charge par l'être meilleur.
Absolument, par la collectivité.
C'est une collectivité meilleure.
Et si vous dites, la collectivité qui en soi a cette histoire. Si vous dites par les êtres meilleurs, on risque de tomber dans un paganisme. Et,
ça est meilleur compliqué. Par rapport à moi. Hein.
Oui, mais c'est la collectivité qui est meilleure. Et les autres ne sont que meilleurs par rapport à l'instant d'avant où ils étaient moins meilleurs. Vous comprenez? Les autres les meilleurs. C'est à renvoyer à leur histoire individuelle. Mais c'est au niveau de la collectivité. Je vous rappelle la phrase. Vous avez bien compris ce qui s'est passé. Hein? Il y a une histoire messianique de l'ensemble de l'humanité à travers l'ensemble d'Israël. Bon, mais là, il y a d'autre part l'histoire de la destinée individuelle de chacun. Et elle n'est pas forcément au même niveau que l'histoire collective. Mais par le fait de me relier à la collectivité, je suis assumé par elle, quel que soit le niveau où je suis. C'est clair? Vous voyez pourquoi la communauté passe avant les êtres d'élite. Parce que les êtres d'élite sont renvoyés à leur propre histoire. Mais la communauté comme telle, c'est autre chose. Et la phrase est très simple, vous la connaissez. Kol Israël Yeshlaem Chelek La Olamaba. Sheneema Ve'amer Kulam Tzadik. Et comment il faut lire? Ve'amer Kulam Tzadik. Parce que si ce n'est pas Ve'amer Kulam. Et...
Le monde disparaît en quoi le Olam Adéchamot récupère en
Attendez, je ne sais pas si quelqu'un n'est pas rentré entre temps. Alors ne me dites pas si le monde disparaît. Enfin...